Voilà, bonjour à tous. Ça va ? Ça fait du bien déjà la louange, non ? Hein ? D'accord, on fait signe, il ne faut pas toucher au micro. Je ne touche pas au micro. Ça fait du bien de louer le Seigneur et puis, de se laisser quand même aussi remplir par l'amour de Dieu, n'est-ce pas ? Hein, on a besoin de vivre ça, on a besoin de grandir dans cette expérience de l'amour de Dieu, parce que c'est elle, en effet, qui, je dirais, nous libère. En effet, nous libère de tout ce qui peut-être nous enserrer dans notre cœur. Hein, c'est l'amour du Père en particulier, du Père céleste, qui vient opérer quelque chose en nous de vraiment de bon. Hein, l'Écriture nous rappelle que c'est par l'Esprit que nous crions « Abba Père hein. ». Alléluia. Hein, cet esprit d'adoption qui vient nous pousser à crier. Pourquoi est-ce qu'on le crie, à votre avis ? Ben voilà, on le crie parce que au fond de nous, c'est pas si naturel que ça. Et donc, c'est une sorte de cri de délivrance, de secours et de transformation en même temps. Hein, on passe d'enfants qui ne sont pas sûrs d'être aimés, d'enfants qui ne sont pas sûrs d'être adoptés par Dieu, d'être chéris par Dieu, même malgré ce qu'on a pu peut-être entendre, et dans cette présence et dans cette manifestation de la vie de Dieu en nous, eh bien, cet amour rentre en nous un peu comme du souffle dans un ballon de baudruche et plouf, hein, quand l'enfant naît, qu'est-ce qu'il fait au moment de la naissance ? Il crie. Eh bien, c'est un petit peu quelque part la même chose qui peut nous arriver hein, dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est Dieu qui fait ça en nous et il le fait comme ce matin au travers de la louange. Merci hein, pour ceux qui ont conduit aussi ce temps de louange. Amen. Alors, ce n'est pas mon message de ce matin. Avant d'ouvrir la parole quelques instants, je voudrais aussi vous présenter tout simplement déjà mon épouse avec mes trois enfants qui sont là, pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, on a, voilà, il y a Josué qui va se lever, Jean aussi. Voilà, notre deuxième. Hein, donc, Josué, Jean, mon épouse, Rachel, et puis donc Sephora qui était dans la farandole, merci. On a fêté nos 17 ans de mariage hier avec mon épouse, hein, donc voilà. Et puis je vous présente également Robert et Anne-Marie qui sont là, qui vont se lever aussi. Ce sont des amis hein, qui servent le Seigneur avec nous depuis déjà de nombreuses années, et puis qui sont toujours là dans ce que nous vivons de nouveau aussi dans notre ministère depuis déjà pas mal de temps. Donc, je voulais aussi qu'on puisse les accueillir. Anne-Marie, pour ceux qui se rappellent, j'en avais parlé certainement quand j'avais parlé d'Amitié Haïti. C'est la sœur qui avait été gravement malade en France et qui était au bord de la mort, hein, pour ne pas dire plus, et que le Seigneur a relevé de manière merveilleuse. Hein, peut-être un jour, on aura l'occasion d'entendre aussi leur témoignage, qui est un témoignage vraiment formidable. Voilà, merci. Alors, ce matin, je vais vous parler sur un thème qu'on n'aborde pas souvent dans les églises, mais pour autant qui demeure intéressant. Je vais vous parler sur le silence, et particulièrement sur le silence spirituel. Avant de parler sur le silence spirituel, juste très peu de mots sur le silence qui, lui, n'est pas spirituel. Parce que le silence n'est pas de nature bon ou de nature mauvaise. Il va être en fonction de ce que nous sommes appelés à vivre. Soit il va être porteur de vie, soit il va être porteur de mort. D'ailleurs, les citations qu'on a dans notre société, on va dire que, par exemple, que le silence est d'or. Mais on dit aussi que le silence est de plomb, pour vous dire que dans les deux cas, voilà, ça varie en fonction de la situation. Il y a un silence charnel quelque part, et ce silence, c'est celui qui fait mal. Quand l'autre, par exemple, ne veut pas parler, hein, ou n'arrive pas à parler. Parfois, ça arrive dans les couples, il y a des difficultés de communication. Et puis, ce n'est pas forcément qu'on ne veut pas parler, mais c'est que parfois, l'histoire des personnes fait qu'elles n'arrivent pas à parler. Et alors, c'est une douleur, finalement, qui est partagée autant par celui qui n'arrive pas à parler que par celui qui n'arrive pas à entendre l'autre lui parler. Ça, c'est un silence qui a besoin d'être quelque part libéré. Il y a également aussi le silence qu'on pourrait appeler un silence coupable. On entend souvent ce dicton qui ne dit mot qu'on sent. Et en effet, dans certains cas, c'est la réalité. Hein, c'est Martin Luther King qui disait ceci: à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Eh oui, il y a des silences qui sont parfois coupables. Et c'est pour ça que la Bible nous invite, dans le livre des Proverbes, par exemple, et nous dit ceci: ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts, défends les droits des malheureux et des pauvres. Donc le Seigneur nous dit: ouvre ta bouche. Et dans certains cas, se tenir dans le silence n'est pas justifié, n'est pas approprié. Maintenant, on va venir sur le silence spirituel et ici donner quelques exemples tirés de la Bible. Tout d'abord, dans l'Exode, au chapitre 14, on a ici un texte qui nous dit ceci. Le contexte, vous allez vite vous en rappeler, je pense. Moïse répondit au peuple, au moment où Pharaon vient serrer le peuple d'Israël, qui est bloqué par la mer derrière, la mer Rouge. Il leur dira ceci, Exode 14, verset 13: « Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Voilà un silence spirituel qui était demandé par l'Éternel au peuple de Dieu. Un silence qui avait pour but de prévenir des paroles qui sortiraient en provenance notamment de la peur. Parce que quand on est attaqué par les Égyptiens et qu'on est bloqué par la mer et qu'on n'a pas d'armes et qu'ils viennent avec des chars et des lances et une armée puissante, c'est la panique à bord. Et donc, face à une panique, qu'est-ce qui se passe? On parle, on a peur. Et cette peur, on l'exprime. En l'exprimant, on la transmet. Et en la transmettant, on quitte le terrain de la foi, de l'obéissance, et on perd la protection et la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que Dieu va dire: garde silence. Amen. Ça veut dire que dans nos vies, parfois, face aux difficultés que nous pouvons rencontrer, peut-être à l'oppression parfois qui peut venir sur nos vies, eh bien, nous pouvons être amenés à entendre le Seigneur qui nous dit: « Hey, garde silence. J'oserais dire presque tais-toi. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de te décourager et de décourager les autres. » Et d'ailleurs, dans l'Écriture, on voit bien qu'à certains moments, il y a un tri qui s'opère dans les armées. Hein. Ceux qui ont peur, vous restez à la maison, les autres, vous venez à la guerre, parce que ceux qui ont peur transmettent leur peur. Il y a un homme qui a dit ceci: certaines batailles se gagnent en silence. C'est à méditer. Il y a en nous des Goliaths et des Égyptiens qui peuvent être vaincus simplement par notre silence. Ça va? C'est bon? À méditer, hein, simplement par le silence. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Ça, c'est important. L'Écriture dira dans Lamentation: il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On a toujours dans l'Écriture, dans Apocalypse au chapitre 8 et au verset 1, je vois que ça, dès que je le dis, c'est magique. Presque magique. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, nous dit l'Écriture. On a un silence suite à une trompette de l'ange. On a un silence qui s'impose dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Un silence, la Bible nous dit, d'une demi-heure. Ça veut dire que l'Esprit Saint, à ce moment-là, va imposer, suggérer, inspirer un silence à tout le royaume de Dieu. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Il n'y a pas un ange qui dit un mot. Il n'y a pas un son, il n'y a pas un bruit. Et probablement que ce silence, alors on n'a pas d'explication du pourquoi, etc., mais sans aucun doute que ce silence, il a bien sûr un objet, il a une raison d'être, il apporte quelque chose à ce peuple-là. Il y a peut-être une gravité du moment, parce que c'est quand même pas n'importe quel seau qui est ouvert. On entre dans une phase nouvelle, et cette phase nouvelle qui s'impose là nécessite un temps de silence dans lequel certainement eh bien, les uns et les autres, les anges, etc., les êtres vivants, les vieillards, se disent des choses peut-être à eux-mêmes, ou disent des choses peut-être dans le silence de leur cœur à Dieu. Difficile d'aller un petit peu plus loin sur ce silence-là. En tout cas, l'Écriture nous montre que parfois Dieu nous invite à un silence collectif, un silence qu'on pourrait dire aussi d'Église. Dans 1 Corinthiens 14, verset 28, on a ceci: « En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour et que quelqu'un interprète, et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » En d'autres termes, on a ici la demande claire de savoir vivre aussi en Église des silences qui viennent du Seigneur. Ça va ? Souvent, on a envie, et c'est bon, et Dieu nous invite aussi à nous exprimer, hein, c'est ce qu'on a fait ce matin, à louer, à adorer, et je crois que c'est extrêmement porteur, et c'est extrêmement important, c'est dans la pensée de Dieu. Mais parfois, on doit aussi accueillir l'idée qu'on peut être amené à vivre des temps de silence, et qui vont... et on va rentrer un petit peu dans ces choses-là. Dans l'Écriture, on peut comprendre qu'il y a aussi plusieurs niveaux de silence. Et on en vient ici, je dirais, au premier niveau de silence, que moi j'appelle un peu le silence parole, si on peut dire ça comme ça. On l'a lu, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire que c'est un dialogue qui s'installe dans le silence, mais un dialogue qui est intérieur. On se parle à soi-même et on parle à Dieu, mais sans qu'aucun mot ne sorte, dans un silence. C'est ce que moi j'appelle le silence parole. On a dans le psaume, chapitre 4, verset 5, la fin du verset 5, on a notamment un texte biblique moi, qui m'a beaucoup qui m'a introduit à ces différents niveaux de silence. Et il dit ceci, ce psaume 4, voilà: parlez en vos cœurs sur votre couche, sur votre lit, puis taisez-vous. Intéressant. On commence par le premier niveau de silence. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Donc là, on est déjà silencieux. Déjà, on se tait. Hein. Puis ensuite, il y a deuxième étape, on va y venir tout à l'heure, et taisez-vous. Ça, on viendra, c'est le deuxième niveau. Mais restons pour l'instant, quelques instants, sur le silence parole. C'est le moment où on ne dit rien, donc, évidemment, mais où on se parle intérieurement, où on sonde un petit peu, quelque part, son cœur tranquillement et calmement. Et parce qu'on n'est pas dans l'agitation de la parole, eh bien, cela nous permet, en fait, d'aller un petit peu au fond de nos cœurs, un petit peu plus en profondeur, tout au moins. Et dans ces lieux-là, eh bien, on peut se dire un certain nombre de choses à soi-même, se parler à soi-même. Vous voyez, ce matin, par exemple, dans le chant qui était montré, l'immensité, hein, si tu veux bien... s'il te plaît, Julien, le maître, l'immensité, voilà. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur, voyez, rien que ça. Ça serait super intéressant de se taire complètement et de méditer intérieurement cette parole. Quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Et dans le silence intérieur... On ne va pas le faire ce matin, mais vous pouvez le faire à la maison. Vous laissez pénétrer, entre guillemets, par cette parole-là. Et vous le dire aussi à vous-même. Prendre conscience dans la profondeur de votre cœur, dans ce silence parole, que ces paroles-là sont des paroles authentiques, que vous pouvez proclamer sur votre propre vie. À un moment donné, il y a Dieu qui va dire à Josué, face au grand défi qui est devant lui, il va lui dire quoi ? Il va lui dire « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Comment est-ce qu'un homme ou une femme se fortifie ? En prenant du Mac 2, du magnésium, quelques aspirines, un petit peu de vitamine C, spirituellement parlant, pour qu'un homme et une femme se fortifient, elle va devoir passer par cette étape de silence intérieur et de réception et proclamation des paroles de Dieu sur elle, par elle-même. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'encouragement. Pour une raison centralement, c'est qu'ils ne savent pas eux-mêmes s'encourager. Allô ? Allô la terre ? Si tu sais t'encourager, si tu sais qui tu es en Christ, quelles sont les bénédictions que tu as reçues en Jésus-Christ, ta vie va aller de mieux en mieux. Et tu vas aller beaucoup de mieux en mieux. Au point que être encouragé, c'est toujours appréciable. Et merci Seigneur pour les encouragements. On va pas cracher dessus, ce serait ridicule. Mais tu peux ne pas dépendre des encouragements des autres. Allô ? Quand on dépend des encouragements des autres, en général, on est très content quand ils nous félicitent et on n'est souvent pas content du tout quand ils nous disent rien. Et on a tendance à leur en vouloir, n'est-ce pas ? Non ? Il m'a pas dit bonjour. Non mais ? Dis-toi bonjour à toi-même un petit peu, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus tu vas savoir te faire du bien à toi-même, et plus tu vas aller bien, et plus tes relations aussi, quelque part, vont s'améliorer. Pour se faire du bien à soi-même, il y a des clés. Une des clés, c'est le silence, et savoir passer les paroles de Dieu. Dans le chant, il y avait la suite aussi qui est formidable. Laissez-vous remplir par ça, et pour le faire, il faut se l'appliquer à soi-même. Il faut se dire oui, Seigneur, merci. Avant que le monde n'ait été créé, avant même que je ne sois né, tu me connaissais déjà et tu m'aimais. C'est formidable quand même. C'est pas puissant ça ? Quand on a peut-être connu une enfance difficile avec des parents qui n'ont peut-être pas été là ou présents ou autre. Mais cette parole-là est vraiment une parole puissante qui restaure en profondeur. Le silence, c'est aussi ce silence-là, c'est la capacité de prendre conseil de soi-même. On se dit des choses, on s'encourage, on se conseille également intérieurement. Quand on est dans le silence, on peut par exemple parfois percevoir qu'on est en colère, par exemple. Parce qu'on est dans le silence n'amène pas le vide, comme souvent on le pense, le silence amène le fond. Et quand on arrive à prendre conscience de ce qui se passe dans le fond, on peut se conseiller intérieurement. Amen. Voyez ? Vous me suivez ? Et ça, c'est le silence qui va le permettre, et donc c'est important de le pratiquer. Dans le silence, on se construit, c'est loin d'être improductif, c'est loin d'être une perte de temps. Au début, quelqu'un dira ceci, le silence fait mal. Avec le temps, il devient nécessaire. Un autre a dit ceci, pour certains citadins, la campagne est intolérable parce que son silence rejoint leur vide intérieur. Et parfois, on a peur du silence. Parce que le silence, justement, si on le laisse faire son travail dans notre cœur, il nous amène dans les profondeurs de notre être, pas dans le vide, dans les profondeurs. On touche à des choses. Et parfois, ce qui se passe au fond de nous, on n'a pas trop envie de le voir. Et donc, on évite le silence. Et donc, blablabla, blablabla, blablabla. Vous avez déjà connu des gens qui n'arrêtent pas de parler ? Souvent, on leur dit, on essaye d'en placer une, n'est-ce pas ? Quand c'est comme ça. Non ? Et blablabla, blablabla, blablabla. On essaye d'en placer une, on n'arrive pas. Et donc, on dit aux gens, à un moment donné, écoute-moi. Ça veut dire, en fait, s'il te plaît, tais-toi. Et tant qu'on est là dans le fait de ne pas savoir arrêter de parler, c'est quelque part, on refuse un peu d'aller à l'intérieur de son être. Et c'est dommage, parce que c'est là que le Seigneur peut aussi intervenir et nous faire du bien. Il y a quelque part dans la résistance de ce silence-là, eh bien, ce qu'on pourrait appeler l'agitation de la pensée, l'agitation de la vie, l'agitation de la parole. Hein, on a un peu Marthe et Marie, un petit peu là, en perspective. Marthe qui est agitée, hein, qui est occupée, etc. Elle n'arrive pas à se poser. Parfois, c'est ce qui se passe. Un peu comme les flots de la mer, vous voyez, la tempête est là. Et puis Jésus est obligé de dire à la tempête, « Silence et tais-toi ». Et parfois, pour qu'on entre dans le silence un petit peu, on doit entendre aussi cette parole peut-être du Seigneur ou se dire à soi-même, « Oh, silence, tais-toi maintenant. » Pour pouvoir entrer, ouvrir la porte du silence et entrer dans ce temps qui est là. Rassurez-vous, hein, on ne s'enferme pas dans le silence. Amen. Hein, le Seigneur nous a donné la parole, il faut aussi la garder. Hein. Maintenant, on peut aussi aller... Et c'est la deuxième étape, et je poursuis avec ça, et je termine aussi avec ça, ce qu'on pourrait appeler le silence, qui lui est alors un silence écoute. Hein, on l'a lu tout à l'heure, « Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Et là, c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais qui est quand même utile, c'est-à-dire entrer dans un silence où, intérieurement, on arrive au point où on se tait intérieurement, afin d'être alors à l'écoute, et là à l'écoute de Dieu en particulier. C'est un théologien protestant, Søren Kierkegaard, qui a dit ceci, « Je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de choses à dire, jusqu'au moment où finalement je me suis tu, dans le silence, dira-t-il, j'ai découvert la voie de Dieu. » Et en effet, et c'est pas toujours facile à faire, mais il est bon d'essayer à certains moments de se placer dans une position d'écoute. Et pour pouvoir écouter, comme je le disais tout à l'heure, il faut se taire. Et pour se taire intérieurement, c'est pas si simple que ça. Hein, on connaît tous le truc, hein, je vais commencer à prier, ben, « Seigneur, parle-moi », et là, tout de suite, « Ah ouais, la machine à laver !»« Ah ouais, il faut que j'envoie mes impôts !»« J'ai pas balayé à cet endroit-là. » Ouais, vous connaissez, on connaît tous ça. Et c'est là qu'il y a la difficulté pour nous de... Et c'est un peu normal. Et en même temps, quelqu'un disait, quand ces pensées te viennent, plutôt que de les rejeter brutalement, accueille-les quelque part, parce que ces pensées parlent de quelque chose qui te tracasse. Et donc, essaye de le gérer simplement. Mais pas pour l'évacuer brutalement, mais pour le laisser faire son travail. Déposer à Dieu peut-être un peu, ben, « Seigneur, tu vois, je te remets mon stress par rapport aux impôts, je te remets mon stress par rapport à ce que je n'ai pas nettoyé, etc. » Puis gratter un peu, essayer de voir un peu ce qui se passe derrière. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'on en est à se poser ce genre de questions? C'est toujours utile et c'est porteur. Mais finalement, il faut essayer d'arriver à un moment où on est vraiment à l'écoute du Seigneur. Vous remarquez avec moi que le psaume dira « Parlez en vos cœurs sur votre lit, puis taisez-vous. » Hein ? C'est la position du divan. C'est intéressant, hein ? Parce que quand on est allongé, on est beaucoup plus réceptif, en fait. On a tendance, et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des hormones, certainement, du cerveau, j'en sais rien, mais toujours est-il que dans ces moments-là, on n'est plus en position de debout et donc de défense. Hein ? D'ailleurs, c'est pour ça que les psys nous allongent, quand si possible, parce que là, on est détendu. On n'est pas dans une position de... Non, non, on se laisse, on se rend accessible. Et c'est certainement pour ça que dans l'Écriture, on a cette histoire qui est dite aux disciples qu'il exerce mon oreille au matin. Au matin, au moment où tu te réveilles. C'est un moment où, un, tu es allongé, et où, deux, le niveau d'agitation et d'activité est vraiment bas, au moment du réveil. Et c'est souvent là que Dieu parle, à condition qu'on tende l'oreille et qu'on l'écoute. Mais le disciple, il apprend à vivre ça, il apprend à faire cela. Regardez avec moi dans l'Écriture, on a Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, ce beau texte où Dieu va appeler Samuel. Donc Samuel n'est pas du tout en train d'écouter Dieu, il n'est pas vraiment là en train d'écouter du tout. Il n'a jamais entendu le Seigneur lui parler. Et il entend « Samuel, Samuel ». Donc lui, il pense que c'est le maître Élie, le prêtre. Donc il va voir le prêtre qui lui dit « Bah voilà, tu m'as appelé, etc. » « Non, non, je ne t'ai pas appelé. » Deux fois encore « Samuel, Samuel ». Donc Dieu, merci Seigneur, Dieu est capable de nous parler même quand on n'écoute rien. Hein. En fait, la plupart du temps, c'est ce qui nous arrive. Merci Seigneur, hein, parce que Dieu est bon, il nous parle, il n'attend pas qu'on l'écoute. Mais remarquez que Samuel, dès le commencement, doit apprendre à dire, parce que le prêtre Élie va le renvoyer en lui disant, écoute, lui il a compris ce qui s'est passé, et il va dire, la prochaine fois que ça t'arrive, tu diras ceci, parle, car ton serviteur écoute. Et à partir du moment où Samuel va dire à Dieu, parle, parce que ton serviteur écoute, au moment où il se met en position d'écoute, Dieu va ouvrir la parole. Tant qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a que Samuel, Samuel. Vous voyez, dès qu'on entre dans l'écoute, eh bien Dieu va donner beaucoup plus de choses. Et c'est donc proportionnel quelque part à notre volonté et notre capacité, quelque part, d'écoute. Quelqu'un disait ceci, « Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que ce qu'on parle. » Alors, il est bon donc d'aller, je dirais, moi j'appelle ça un peu le téléphone divin, d'aller au téléphone divin. Voilà, le matin, c'est pas mal. « Allô, Seigneur ?» Est-ce que tu m'as laissé un message? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? J'écoute. Voilà. Je tends l'oreille. Il ne se passe pas toujours quelque chose. Hein. Dieu n'a pas toujours un message à nous dire. Mais au moins, on va vérifier s'il n'y a pas un message de la part du Seigneur. Et ça, on peut le faire tous les jours. Et quand on fait ça, eh ben, on apprend quelque part à écouter le Seigneur et Dieu. Donc, peut nous parler de plus en plus. C'est Ésaïe 50, je le disais tout à l'heure, qui disait « Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté et je ne me suis pas retiré en arrière. » Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que Dieu veut nous apprendre à tendre l'oreille. Dieu veut déposer ses pensées dans notre cœur, mais nous, on a aussi la possibilité de dire oui ou de dire non à tout ça. Le disciple dira, je n'ai pas résisté, j'ai accueilli cette volonté, Seigneur, que tu m'ouvres l'oreille, et je ne me suis pas retiré en arrière. Parce qu'en fait, écouter le silence, parole, le silence, écoute, quelque part, ça fait un peu peur. Ça va ? Qu'est-ce que Dieu va me dire ? Il va me disputer, il va me demander un truc que j'ai pas envie de faire. Donc moi, oh, je suis bien tranquille, à me baraque. Hein ? Moi, ma vie, tout va bien, j'ai pas besoin. Donc Seigneur, tu es bien gentil, merci pour ton serviteur, merci pour sa parole. Mais moi, demain, le téléphone, il reste à sa place. Je n'irai pas voir le message. Parce qu'on a peur, parce qu'on appréhende. On a parfois peur que ça va nous faire perdre du temps. On a peur parfois de toucher le fond aussi, d'aller dans des endroits qui vont peut-être faire mal. Et donc, on préfère s'arrêter. Parfois, on a aussi peur de s'endormir. Moi, ça m'arrive d'écouter Dieu, enfin, d'être à l'écoute de Dieu, et de m'endormir. Mais c'est bien. C'est pas la fin du monde. C'est pas grave. Hein, comme je vous le disais, Dieu ne me parle pas tous les jours. Hein. C'est pas le buisson ardent. Hein. Hein. Voilà. Parfois, Dieu nous parle. Merci Seigneur, mais plus tu écoutes, plus il te parlera. Amen. Mais ne t'inquiète de rien, quelque part. Pratique simplement cette parole du Seigneur, et c'est ça qui va t'aider, je dirais, à progresser, à avancer, à recevoir. Alléluia. Quelqu'un dit, je termine avec cette phrase avant de prier, « Heureuse et bienheureuse l'âme qui perçoit dans le silence la pulsation du murmure de Dieu. Ouais, c'est pas mal, hein. Et souvenons-nous que quand Dieu parle, hein, il a exprimé aussi beaucoup avec Élie le prophète en particulier, ce murmure doux et léger, n'est-ce pas ? Hein, c'est vraiment en fait un murmure, quoi. Hein, c'est Dieu. Et donc, ça nous invite vraiment à tendre l'oreille. Hein, on a déjà tous eu des rendez-vous parfois médicaux. Moi, je pense à un médecin en particulier, des grands médecins. Et quand le moment un peu de dire ce qui se passe parle, il y a ce médecin, en tout cas, parler vraiment très bas. Alors voilà, si on est votre monsieur. Voilà, lui se fatiguait pas. La voix, mais nous, on se fatiguait les oreilles à devoir l'écouter. Mais en même temps, ça crée et ça suscite une écoute vraiment haute. Et Dieu veut nous parler aussi parfois, calmement et doucement, dans un doux murmure. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a à dire n'est pas important, bien au contraire, mais que ça nous oblige, nous, à tendre l'oreille. Et je termine en disant, parce que ça me paraît extrêmement important, que quand Dieu nous parle, il faut y prendre garde. Dieu parle tantôt d'une manière, nous dit la Bible, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et honnêtement, je pense que cette parole de l'Écriture, elle est vraie. On n'y prend pas garde, malheureusement. Et donc, soyons, désireux d'écouter Dieu, mais plus que ça encore, vraiment attentifs à prendre garde à ce que Dieu pourrait aussi nous dire. Amen. Pour mettre ça en œuvre, mettre ça en place, parce que celui ou celle qui va écouter la voix de Dieu et qui va pratiquer selon ce que Dieu lui montre sera béni. Allô ? Il sera béni ! Parce que la pensée de Dieu pour toi, c'est la pensée parfaite. Il n'y a pas mieux que le conseil de Dieu. Il n'y a pas plus sage que la pensée de Dieu pour nos vies. Alléluia ! Et il nous suffit en fait d'être à l'écoute de Dieu et de faire ce que Dieu nous dit. Parfois, on veut entendre Dieu, mais on ne veut pas faire ce qu'il nous dit. Et quand c'est ce qui se passe, quand ça se passe, sincèrement, c'est triste à pleurer. Parce qu'on passe à côté vraiment de l'excellence qui est prévue par Dieu. Ça arrive. Plus souvent que ce qu'on pense. C'est pour ça qu'il faut être attentif à vraiment mettre en pratique ce que Dieu peut nous dire. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, les uns et les autres à, comme je le dis simplement, à aller, Seigneur, dans ce silence intérieur, ce silence dans lequel nous écoutons aussi et nous parlons à nous-mêmes, dans lequel nous pouvons aussi te parler, Seigneur, de choses profondes. Et aide-nous aussi, Seigneur, à entrer dans ce silence écoute, nous conduisant, Seigneur, à ce téléphone divin, Seigneur, pour écouter. Seigneur, ta parole, ton message, ce que toi tu veux nous dire. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit, Seigneur, donne-nous, je te prie, Seigneur, le désir profond de nous attacher à faire, Seigneur, ce que tu dis. Seigneur, oui, que ton esprit soit sur nous, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.